La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il est difficile de dire ce qui fascine tellement dans les toiles de Van Gogh. Les dernières, surtout les plus éclatantes, les plus gorgées de lumière, procurent un sentiment de paix, de joie presque, qui pourrait faire penser à ce que l'on éprouve par exemple en regardant un horizon marin à la toute fin du jour. Et c'est pourtant dans les moments les plus noirs de sa vie qu'il a réussi de telles prouesses de couleurs. C'est cette articulation entre le sordide et le presque divin que nous allons tenter d'explorer cette semaine. Nous le ferons littéralement jeudi en interrogeant Yann Blanc sur le rapport du peintre au religieux ainsi que sur ses admirations en peinture. Mercredi, nous nous interrogerons sur la fameuse folie de Van Gogh en nous demandant s'il était réellement fou. Mes invités seront Stéphane Guégan et Evelyne Grossman. Et enfin demain, nous parlerons peinture et argent avec Wouter van der Veen. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, comme chaque lundi, nous commençons par la biographie avec Pascal Bonafou, universitaire, romancier, commissaire d'exposition, historien de l'art. Il est l'auteur de nombreux essais sur des peintres comme Cézanne, Degas, Van Gogh évidemment, ou Rembrandt, et on lui doit le Découverte Gallimard, Van Gogh, le soleil en face, où il a publié également dans la même collection Van Gogh, l'atelier d'Arles. Bienvenue à tous dans la compagnie des œuvres.
Dans les dernières lettres, il dit à son frère « Je peux dire que je regretterai Saint-Rémy et les Alpilles. » Et je laisse à Saint-Rémy, à l'asile, trois toiles qui ne sont pas sèches, qui sont les oliviers à côté du masque de mon gardien, c'est-à-dire les nôtres, là, ceux-là. J'ai une toile avec l'aigle entier qui est au coin de notre pont, et ensuite une nature morte dont il ne dit rien d'autre. Il les a laissées, il dit « On me les enverra à Auvers quand elles sont sèches, il ne pouvait pas les rouler, naturellement. » Alors. Vous le savez, ce qu'on a fait de ces toiles?
Non.
Eh bien, les artistes du dimanche, là, les ceux qui peignent des petits galets de la croix avec un coquin de cabanon, avec un petit cyprès, avec une chèvre qui mange les orbes, enfin, des choses ravissantes, comme vous savez, pour presse-papier. Alors, ceux-là, ils ont dit, pensez dans la peinture de fou, pensez un peu comment on va renvoyer ça là-haut. Ils se sont réunis autour du docteur Perron, et avec une corde, ils ont hissé une toile après l'autre au bout du pin le plus haut de Saint-Paul, et à la carabine, ils ont tiré les toiles à la carabine, faisant mouche et remouche et trimouche. Alors, j'ai dit, qui est-ce qui peut mettre dans le plateau tel poids de misère? Cet homme qui est allé se tuer à Auvers en disant la misère, et qui s'est raté, et qui est mort en disant la misère ne finira jamais. C'est terrible. C'est une vie épouvantable. Et ma mère, qui est morte l'année dernière, mais qui l'avait connue quand elle était enfant, elle disait, tu peux pas savoir la peur que nous en avions avec ses cheveux rouges et son pansement. Ça frappe des enfants, ça quand même. Elle avait 12 ou 14 ans, ce moment. Et alors, elle dit, nous crions, le fou, le fou, le fou.
Et avec pour commencer le témoignage de l'écrivaine et poétesse Marie Mauron, qui racontait ses souvenirs à Nicole Strauss en 1969. Bonjour Pascal Bonafou.
Bonjour.
Alors c'est d'abord une profonde compassion, je crois, qu'on ressent à l'évocation de la vie de Van Gogh, cette vie de paria, cette vie de réprouvé. C'est peut-être en partie une légende, on va essayer de le voir cette semaine. Mais est-ce que ce n'est pas cette figure-là, un petit peu christique, qui fait que le public l'aime en particulier?
Et c'est là ce que vous venez d'évoquer, le plus terrible, le plus implacable et le plus odieux et le plus insupportable des malentendus.
Ah.
Si Van Gogh est devenu célèbre, c'est pas parce qu'il était alcoolique, hein. L'absinthe, il l'a brisé. C'est pas parce qu'il avait eu le plaisir d'avoir une blénorragie et d'hériter de la syphilis. C'est pas parce qu'il a été soi-disant pauvre. C'est pas pour aucune de ces raisons. C'est pas parce qu'il a été, dit-on, fou. Aucune de ces raisons. Imaginez quelqu'un qui serait donc alcoolique, syphilitique, pauvre et...
Oui, ça ne suffit pas pour être Van Gogh. Mais en revanche,
exactement.
C'est vrai que ça le rend d'autant plus, j'ai pas envie de dire sympathique, c'est un peu bête, mais on a spontanément de la compassion pour lui.
Voilà, alors justement, il faudrait remplacer la susdite compassion par de l'admiration pour sa peinture. C'est ça qui serait le changement le plus essentiel qui soit. Parce qu'au bout du compte, et vous allez vous demander, mais quelle inconséquence est la mienne pour avoir invité un personnage
je
comme
me
moi
dis pas ça
parce que, bon, au bout du compte, je vous dirais volontiers que la vie de Vincent Van Gogh, elle n'a au bout du compte peut-être bien aucune importance. Ce qui est en revanche essentiel, fondamental, c'est que depuis son adolescence jusqu'à sa mort à Auvers-sur-Oise, il ne va pas cesser d'être obsédé par la peinture, y compris lorsqu'il fait des écarts, si j'ose dire, du côté de la religion, quand il veut à tout prix devenir pasteur et qu'il échoue, quand, etc., etc. Mais à chaque fois, toujours, obstinément, la peinture est présente à son esprit de son adolescence jusqu'à sa mort.
Il ne cherche pas à faire de sa vie une œuvre, mais en revanche, sa vie, c'est son œuvre. Sa vie, pour vous, en tous les cas, se résumerait à son œuvre, Pascal Bonafé.
L'essentiel de ce qu'il est passe par ce qu'il a fait. Hein. Et donc, d'ailleurs, une phrase très troublante dans la correspondance qu'il a avec Théo, correspondance qui est extraordinaire, fascinante, passionnante.
Et que vous avez édité chez Gallimard dans la collection L'Imaginaire.
Exact. Et donc, ce qui est étonnant, c'est qu'à un moment, il dit à Théo, son frère, qui a 4 ans de moins que lui, que la correspondance entre ce que l'on fait et ce que l'on est n'est pas toujours très facile à établir. Avec Vincent Van Gogh, c'est plus vrai qu'avec aucun autre peintre. Et j'aimerais, au bout du compte, si vous voulez bien que... Mais là, je pousse le bouchon très loin, pardon, hein, que on regarde sa peinture comme si c'était une peinture anonyme.
Mais on peut faire les deux, peut-être. On peut parler d'un côté de la vie de cet homme qui s'appelait Vincent Van Gogh, qui a écrit des lettres que vous avez éditées, dans lesquelles il parle de sa vie. Donc ça doit bien quand même vous intéresser un petit peu. D'ailleurs, est-ce que c'est pas une œuvre aussi, ça? Une œuvre de cette personne qui s'appelle Vincent Van Gogh, ces lettres envoyées à son frère Théo?
C'est à l'évidence, le parallèle, le pendant, le complément de ce qu'est sa peinture. C'est l'évidence. Qui plus est, avec une âpreté, une densité, une qualité d'écriture qui est incomparable. Parce qu'il a écrit en 3 langues, en néerlandais pour cause, hein, en anglais et en français. Et avec à chaque fois une puissance et une force qui est de lettre en lettre bouleversante. Avec qui plus est, ce qui est loin d'être indifférent, une lucidité qui est stupéfiante.
Avec un français qui, du coup, est parfois assez charmant, parce que pas toujours tout à fait grammaticalement correct, mais ça lui donne une dimension presque poétique.
Exact. Alors, si vous voulez, en quelques mots, Vincent, bon, il naît dans un patelin perdu qui s'appelle Grootzendert. Son père y est, donc, pour cause, un petit pasteur, si je veux dire, parce que on le sait.
Son grand-père aussi, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. C'est une tradition dans la famille. Et donc, le talent oratoire de cet homme n'est pas des plus extraordinaires qui soient. Donc autant qu'il s'occupe d'une petite communauté plutôt que d'une grande qu'il décevrait. Et c'est là que Vincent naît, en 1857, 1853.
Il y a beaucoup de Vincent dans la famille.
Il y a beaucoup. Depuis le XVIIe siècle, le prénom Vincent passe de génération en génération. Ça a été, comme par hasard... Mais il faut pas en tirer des conséquences psychanalytiques implacables. Un an, jour pour jour, plus tôt, la naissance d'un frère qui est mort-né, qui s'appelait, comme par hasard, Vincent. Hein, bon. Ce qui sous-entend aussi que Vincent a peut-être appris à lire en voyant une pierre tombale qui avait son nom. Bon. Mais je passe. En l'occurrence, quand il arrive à l'adolescence, après des études qui ont été, c'est le moins qu'on puisse dire, pas vraiment brillantes, pas vraiment convaincantes.
Mais c'est un bon garçon quand même. C'est,
oui, non, c'est un brave type.
Quelqu'un
mais voilà,
plutôt enjoué.
Exactement, mais bon. Il se trouve que, quand même urgent, étant donné que la famille s'agrandit et que le père n'a que de petits émoluments, il serait peut-être urgent qu'il travaille. Et là, chance extraordinaire, il y a un autre Vincent dans la famille, qui s'appelle l'oncle Saint, on l'appelle seulement par ce diminutif, qui a eu la bonne idée de vendre à une immense compagnie internationale, qui s'appelle la maison Goupy et compagnie, de vendre sa galerie qui était à La Haye. Et donc cette maison, Goupil et compagnie, est la première, au bout du compte, dans l'histoire de l'art au XIXe siècle, à concevoir le marché de l'art comme étant international.
Qui est basé à Paris, c'est une
Exactement,
entreprise française.
Ils sont à Paris, rue Chaptal, ils ont leur siège social, ils ont deux galeries à Paris, ils en ont une à Londres, ils en ont une à La Haye, donc, à Bruxelles, et même à New York. Et ils vendent, et pour cause, des estampes, des lithographies, et surtout, par rapport à l'art contemporain de l'époque, ils vendent des tableaux, des reproductions, plus exactement, d'œuvres qui sont déjà un tant soit peu célèbres, hein, et qui plus est, de peintres qui sont au salon, qui est le seul moyen pour se faire connaître du public, de peintres qui ont été médaillés, si ce n'est primés, ou si je dis salon. Donc c'est vraiment une maison très officielle. Hein. Et donc l'oncle Saint fait en sorte que Vincent puisse être embauché à La Haye.
Alors ça c'est un hasard total ou est-ce qu'il y a décelé chez son neveu déjà une sorte d'amour de l'art? Est-ce qu'il dessinait déjà? Est-ce que...
Alors, à propos des dessins d'enfants de Vincent, on a une mention de ces dessins qu'il a pu faire quand il était gamin, uniquement lorsqu'il est à Londres, quelque temps plus tard, et qu'il écrit à son frère « J'ai envie de reprendre le dessin », ce qui sous-entendrait qu'il a dessiné avant. Mais, ni le père, ni la mère de Vincent n'ont conservé aucun des crobards, croquis, mm-hmm. ou autres graffitis, si j'ose dire, que Vincent a pu faire. Hein, rien. Donc, ce que pressent peut-être l'oncle Sam, c'est qu'en tout cas, il aura le moyen de gagner sa vie. Là. Hein, pas plus. Mais, chose stupéfiante, qui est presque comme une, comment dirais-je, un signe du destin plus incomparable qu'aucun autre. Sur les papiers en tête que Vincent va utiliser quand il travaille dans cette galerie à La Haye, il y a une en tête, claire, nette, galerie Vincent Van Gogh. C'est quand même stupéfiant. Mm-hmm. Les premières lettres qu'il écrit, c'est sur ce papier, en tête, avec cette mention précise, ce qui est donc le signe presque d'un destin qui serait inéluctable, comme celui d'une tragédie.
Et en même temps, il ne va jamais signer Vincent Van Gogh. Alors, il va toujours signer seulement Vincent, comme si le nom lui pesait un petit peu trop.
Ben, le nom lui est très pesant. À l'évidence, à plusieurs reprises, il écrit à Théo que telle ou telle personne de la famille est un Van Gogh. Et ça sent un peu l'injure. Hein, que c'est insupportable, que ce sont des gens...
C'est quoi un Van Gogh, alors?
C'est l'hypocrisie.
C'est la petite bourgeoisie?
Oui, c'est puis surtout une espèce de bourgeoisie qui entretient une hypocrisie qui lui est insupportable. Hein. Et donc, il écrit même à Théo, à un moment, il y a des tensions entre les deux frères, que si tu tiens à tout prix à être un Van Gogh, ce sera sans moi. Mmh. Donc les choses sont claires. Et donc il ne signe que Vincent. Mmh. Il a, quand il arrive en Arles, une autre raison de signer de son seul prénom, c'est qu'il écrit à Théo cette fois-là que son nom de famille, est parfaitement imprononçable en Arles.
Alors comment est-ce qu'on prononce? Parce que nous on dit Van Gogh, mais ce n'est évidemment pas de cette manière qu'on doit prononcer son
Alors,
nom en néerlandais.
Alors je suis pas sûr de la précision et de la correction absolue de ma prononciation, mais ça devrait plus ou moins donner Vincent van Gogh. Mm-hmm. Bon, et vous devinez que en Arles, Vincent van Gogh, ça donnerait Vincent van der Hoor, donc ce qui n'est pas vraiment le moyen le plus simple d'être connu et interpellé. Donc Vincent, au moins, on comprend tout de suite. Et donc, aussi bien d'ailleurs sa peinture que ses lettres sont signées de ce seul prénom. Là aussi, il y a une chose très extraordinaire quand on regarde l'histoire de la peinture, c'est que cette signature avec le seul prénom, elle correspond dans l'histoire de la peinture néerlandaise, hollandaise, à ce qu'a été le choix qu'a fait Rembrandt. Mais Rembrandt, il veut...
C'est signer... un prénom, hein, Rembrandt.
Voilà,
n'est pas
tout
un
à fait. Rembrandt, c'est un prénom. Et donc, il veut signer Rembrandt parce qu'il veut qu'on le compare à des hommes, à des célébrités italiennes, que l'on ne désigne que par leur prénom.
Leonardo,
Michelangelo, Leonardo, Raffaello, etc., etc. Donc, c'est cette ambition-là. Je serai Rembrandt comme certains ont été Raphaël, Michel-Ange, etc., etc. Alors que Vincent, pas du tout. C'est pas du tout cette ambition de gloire par le seul prénom. C'est au contraire l'humilité et la réserve.
Est-ce qu'il connaît d'ailleurs très jeune tous ces grands peintres italiens? Parce que il est autodidacte. C'est important
oui,
de le savoir, ça aussi.
Soit. Mais Vincent, dès donc son arrivée à La Haye, donc, va visiter régulièrement tous les musées. Et donc, il a une culture, si je veux dire, muséale, extraordinaire, et qu'il va entretenir dans toutes les villes par lesquelles il va passer, par Paris, par Londres, par La Haye, par Amsterdam. Vincent ne va pas cesser d'aller visiter tous les musées possibles.
Alors, il faut parler aussi de ce qui va être évidemment très important dans la vie de Van Gogh, c'est la question de la foi, qui découle de son environnement familial, mais il va aller beaucoup plus loin que son père et son grand-père, qui pourtant sont pasteurs, dans l'affirmation de sa croyance en Dieu, et aussi dans un rapport avec l'univers au sens large, avec la nature. Il y a quelque chose de panthéiste un petit peu chez Van Gogh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, dans sa jeunesse surtout, de quoi il retourne?
Très vite, Vincent d'abord est à l'évidence pieux. Hein, et lorsqu'il est à Paris, parce que bon, il aura été nommé depuis La Haye à Paris, à Londres, enfin, il aura fait un
dans peu les plusieurs succursales, dans les différentes succursales de
la maison Goupil et compagnie. Et quand il est à Paris, il a d'un seul coup une émergence de besoin de spiritualité. Et il va donc régulièrement au temple entendre tel et tel pasteur. Jusqu'au jour où, après s'être brouillé avec la maison Goupil et compagnie, qui est passée sous la direction de Monsieur Bousseau, peu importe, toujours est-il qu'il se dit qu'après tout, il doit pouvoir lui-même devenir pasteur. Mais il a plus l'âge requis pour passer tous les examens. Donc il va les passer un peu en force, si j'ose dire. Enfin, essayer de les passer en force. Et il va recevoir, une fois de plus, l'aide de toute la famille. Des cousins divers et variés. À Amsterdam, bon, certains le logent. Un autre qui est pasteur va lui donner les conseils pour affronter les épreuves des examens qui seront les siens. Et la pensée de Vincent s'exprime avec une force extraordinaire dans les lettres à Théo, où pendant des pages et des pages, il cite la Bible, il évoque les méditations qui sont les siennes,
C'est un vrai prédicateur pour son frère.
Tout à fait. Mais, il y a une différence essentielle avec ce qui se passe pour d'autres. C'est que lorsque Vincent est dans sa chambre, c'est l'un de ses lointains cousins, ce qu'il regarde pour préparer les prédications qu'il va peut-être devoir faire un jour ou l'autre, c'est une reproduction d'un Rembrandt qui est dans sa chambre. Et vous dire que la peinture et la foi sont intimement liées. Donc, bon, il va rater les examens. Il va être dépité et déçu et vraiment déprimé de cet échec. Mais il va s'acharner. Et puisqu'il ne le peut pas à Amsterdam, il va aller en Belgique et plaider sa cause auprès d'un autre pasteur qui va accepter qu'il devienne, titre extravagant, évangélisateur laïque. Et à ce titre, Vincent va vouloir aller porter la bonne parole, par la Bible, par les évangiles, aux plus démunis qui soient. Et pour cela, il part dans le Borinage, qui est une région donc de mines. Et si vous lisez à nouveau Germinal, vous pourrez imaginer que entre la description que Émile Zola fait des mines et ce que vit Vincent, il y a une différence, d'une certaine manière, dans la mesure où Germinal pourrait presque passer pour être un club de vacances à côté de ce que voit Vincent Van Gogh.
Il va d'ailleurs aider des mineurs à de multiples reprises dans des circonstances assez dramatiques.
Exactement. Il fait d'abord le choix d'être plus pauvre qu'eux, d'être pauvre parmi les pauvres. Quelqu'un n'a plus le moyen de s'offrir une chemise, il donne la sienne. Quelqu'un n'a plus de logement, il quitte le sien pour vivre dans une étable, etc., etc. Donc, vous le devinez, là aussi, les autorités, j'allais dire ecclésiastiques, en tout cas pastorales, s'étonnent et s'inquiètent. Qu'est-ce que c'est que ce mysticisme exacerbé?
Qu'est-ce que c'est que ce religieux exactement. Qui donne aux autres à ce voilà, point-là?
Exactement. Qu'est-ce que c'est que ce type qui se veut plus pauvre que les pauvres, hein, qui dépasse les exigences de Saint François encore, hein. Bon, d'ici à ce qu'il reçoive les stigmates lui aussi, de quoi aurait-on l'air? Et qui plus est, les pasteurs sont des personnages qui doivent être respectables. Comment pourrait-on respecter ce pauvre type, mal rasé, crasseux, habillé de briques et de broc? Inconcevable. Donc, on finit par ne plus admettre qu'il soit évangélisateur.
Et en plus, il est célibataire.
Mon cher Théo, quelque chose me pèse que je veux te raconter. Peut-être es-tu déjà au courant et je ne te raconte rien de neuf. Je voulais te dire que cet été, j'ai commencé à aimer K. Et quand je le lui ai dit, elle m'a répondu que son passé et son avenir restaient inséparables pour elle et que, jamais, elle ne pourrait répondre à mes sentiments. J'ai eu alors à résoudre un dilemme terrible. Me résigner à ce jamais non jamais ou considérer la chose comme non terminée, garder bon espoir et ne pas me résigner. J'ai choisi cette dernière éventualité. Entre-temps, je continue à travailler dur et depuis que je l'ai rencontré, mon travail est bien plus facile. Une année en sa compagnie serait salutaire pour elle et pour moi, mais les parents sont véritablement butés sur ce point. Mais tu comprends bien que j'entends ne rien négliger qui puisse me rapprocher d'elle et je suis décidé à l'aimer jusqu'à ce qu'elle finisse par m'aimer. T'arrive-t-il parfois, Théo, d'être amoureux ? Je voudrais que tu le sois, car crois-moi, les petites misères ont également leur valeur. On est parfois désolé, il y a des moments où l'on se croirait en enfer, mais il y a encore autre chose et mieux. Il y a 3 degrés. Premièrement, ne pas aimer et ne pas être aimé. Deuxièmement, aimer et ne pas être aimé, c'est mon cas. Troisièmement, aimer et être aimé. Je prétends, quant à moi, que le 2e degré vaut mieux que le 1er. Mais le 3e, c'est le summum. Eh bien, old boy, sois donc aussi amoureux. Et raconte-le-moi à ton tour. Sois gentil dans un cas comme le mien et montre-moi de la sympathie.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
La question de l'amour chez Vincent Van Gogh est très importante. C'est l'amour divin, évidemment. C'est aussi l'espoir d'une espèce de réconciliation un jour avec une moitié. C'est une vision finalement très romantique qu'il a là et qui formerait un seul être totalement fusionnel. Ça commence d'ailleurs assez tôt, me semble-t-il, puisqu'il a une première déception à l'âge à peu près de 19 ans. Avec une jeune fille qui s'appelle Ursula, vous allez nous raconter ça. On a l'impression que c'est comme s'il était tout d'un coup déchu du fait de cette déception amoureuse, comme si finalement le réel lui apparaissait dans toute sa dureté, alors que bon an mal an, dans son enfance, il avait vécu, et y compris dans son adolescence, avec une certaine forme de joie, ou en tout cas de paix. Qu'en pensez-vous, Pascal Bonafou ?
Il est vrai que la relation qu'il a à l'amour est très extraordinairement complexe. Parce qu'en effet, bon, il va de déception en déception à la fin de son adolescence. Vous avez évoqué Ursula, c'était la fille de la femme chez laquelle il était soi-disant en train d'enseigner, hein, de surveiller une petite pension. Bon. Et puis, il va avoir, on a entendu cette lettre à l'instant, la même déception avec cette cousine lointaine qui est veuve, qui a un enfant, mais qu'il aime. Et qui plus est, parce que elle est veuve et parce qu'elle a un enfant, il se sent un besoin de l'aider, de l'accompagner, de la soutenir.
Aimer, c'est pour Vincent Van Gogh, beaucoup aider, exactement. C'est-à-dire venir suppléer quelqu'un qui est dans le besoin. Ce sera comme ça aussi avec Sienne.
Exactement. Et donc, ça va être le cas, en effet, avec cette prostituée avec laquelle il a vécu pendant quelques années, avec Sienne qui a déjà un enfant et qui va accoucher pendant que Vincent vit avec elle. Hein. Donc, il va avoir toujours ce besoin d'apporter un soutien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand il est dans le Borinage et qu'il est au milieu donc de cette misère terrible des mineurs et de leurs familles, il va vouloir les dessiner pour témoigner. C'est là aussi, vous savez, entre la notion de l'amour, le dessin et cette générosité qui sont les siennes, il y a un lien qui se tresse sans cesse. Hein. C'est la même chose. Il faut témoigner avec le dessin de la misère des uns. Il faut apporter son soutien à ces femmes qui sont à l'abandon, qui sont perdues. Et il faut donc toujours avoir cette générosité absolue. La générosité est un des éléments essentiels de la démarche de Vincent.
Témoigner pour ceux qui n'ont rien, c'est surtout au début de sa vie. C'est en effet quand il peint avec une facture un peu 19e, paysans qui mangent des pommes de terre, c'est ça finalement témoigner. Mais plus tard, ça va être complètement autre chose, la peinture de Van Gogh.
Il va se passer deux choses. La première d'abord, c'est témoigner. Témoigner, c'est cette volonté de rendre compte de ce qu'est cette, comme je viens de vous le dire, cette misère avec les mineurs. Et puis, témoigner aussi de la misère des paysans, hein, de ces pauvres personnages qui, dit-il, lorsqu'il aura achevé la toile des mangeurs de pommes de terre, dont il est très fier, parce que c'est la première grande composition qu'il a pu faire.
C'est son premier chef-d'œuvre.
Exactement. Mais c'est dire aussi, il les mérite, ces pommes de terre, parce qu'ils ont travaillé comme des brutes pour enfin arriver à se retrouver autour de cette petite lampe et manger ces pommes de terre. Là-dessus, Vincent va... Donc, si vous voulez, pendant toutes les années où on arrive à cette œuvre que sont les mangeurs de pommes de terre, vivre avec une chose dont, on me semble-t-il, on n'a pas tenu assez compte. Dans les musées qu'il est allé visiter, à Paris, à Londres, à Amsterdam, à La Haye, etc., etc., à Bruxelles, il y a une chose donc qu'on ne mesure plus aujourd'hui, c'est que les tableaux sont effroyablement crasseux, hein. Sont avec la poussière qui a fait une espèce de glu et de vernis terne sur les tableaux. On démultiplie les ténèbres pour Rembrandt à l'époque à cause de ça. Hein. Bon, mais qui plus est, dans ce même 19e siècle, souvenez-vous qu'on peint sur du bitume, qui est loin d'être la couleur la plus claire qui soit. Hein.
Donc, il y a une tradition du clair-obscur quand même aussi dans la peinture hollandaise, non ?
Soit, mais pour qu'il y ait l'obscur, il faut quand même du clair. Mmh. Et le clair, il n'est pas souvent présent dans la peinture de Vincent à l'époque. Hein. Donc, c'est dire que Vincent va avoir des notions très extraordinairement étranges, qui vont d'abord être celles de peut-être retourner en plein air. Ça, il le doit à un homme essentiel, le peintre Mauve, Anton Mauve.
Son cousin.
Son cousin, qui va être le premier à lui mettre un pinceau en main devant une nature morte. Une paire de sabots, un chou, quelques patates, et allez, vas-y, peins. Et il va être stupéfait de la façon dont Vincent se tire de ce presque piège qu'il lui a tendu. Mais Vincent saura avec Anton Mauve ce qu'est déjà, puisqu'il appartient à peu près à ce mouvement, l'école de Scheveningen. Scheveningen, c'est une sorte de station balnéaire à quelques kilomètres au nord de La Haye, et qui est donc le lieu où les peintres se réunissent avec le modèle qui a été celui de Barbizon. Hein, avec aussi, là, un souci social évident. Millet, qu'on a qualifié au 19e siècle avec un peu de mépris et de crainte de peintre socialiste. Hein. Millet est un exemple extraordinaire.
Ce qu'il peint les paysans et notamment ce beau tableau de l'Angélus qui est un des tableaux que préfère Van Gogh.
Exactement, qui va même acheter plusieurs lithographies représentant l'Angélus de Millet. Et donc, encore une fois, si vous voulez bien, l'œuvre de Vincent, elle est cette dimension quand il peint les mangeurs de pommes de terre comme il a représenté les mineurs, c'est toujours cette dimension de témoignage, hein, de rendre hommage aux plus miséreux, à ceux que, en l'occurrence, et c'est la raison pour laquelle il refusera pendant des années et des années d'aller dans aucune école des beaux-arts, il est hors de question de pouvoir, par l'école des beaux-arts, aller requérir la clientèle de la bourgeoisie. C'est pas ça le problème. Ça va être de peindre ceux que l'on oublie, dont on ne sait pas qui sont les anonymes.
Mais est-ce que ça va continuer comme ça toujours durant toute la vie de Van Gogh, parce qu'on a l'impression que plus tard, avec l'éclatement de la couleur et de la lumière, il y aura toujours des paysans, mais ils n'ont plus ce côté dramatique, ce côté presque un peu miséreux qui peut y avoir, quoique pas tellement finalement, mais un peu plus au début, dans les premières peintures de Van Gogh.
Il y aurait eu entre les paysans, disons, de Nuenen, hein, où il vit avec ses parents à nouveau, ou de la Drente, ou etc., en tout cas tous ceux qu'il a peints aux Pays-Bas, et ceux qu'il va peindre, pourquoi pas, hein, dans la vigne rouge à côté d'Arles ou dans les champs de la Croix, une différence essentielle, mais qui est une différence fondamentalement picturale. Quand il est aux Pays-Bas, Vincent entend parler de ce mouvement qui a commencé en 1874, qu'il a peut-être pu frôler à Paris, mais qu'il a ignoré. Peut-être à cause de l'influence de Goussy, de Goupil et compagnie. C'est l'appurance, donc, des impressionnistes. Les impressionnistes, ils ne savent pas ce que c'est. Alors peut-être que Théo, qui est passionné par eux, hein, qui essaye vaille que vaille dans la galerie dont il dispose, donc on lui a confié de présenter les impressionnistes, peut-être que Théo lui en parle. Bien sûr, Vincent va lire les articles d'Émile Zola, sans doute d'autres articles encore. Mais qu'est-ce que c'est que l'impressionnisme? Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de couleurs? Il comprend pas. Hein. Et ce n'est que lorsqu'il arrivera à Paris en février 1886 qu'il va enfin découvrir ce qu'est la réalité de l'impressionnisme, d'autant plus que quand il arrive à Paris en 1886, après donc tous les déboires qu'il a pu avoir, hein, l'enseignement ça a pas marché, vouloir être donc évangélisateur laïque ça n'a pas marché, avoir voulu travailler et vivre avec cette prostituée qui est sienne, ça a été tellement interdit, ça a été tellement réprouvé qu'il a été obligé de l'abandonner, etc., etc. Il est allé d'échecs en difficulté, de troubles en incertitude, d'incertitude en anxiété. Et il arrive enfin à Paris, après avoir passé quelques semaines les plus, sans doute, les plus difficiles et les plus âpres de sa vie à Anvers. Il arrive, et bien sûr, il va vivre grâce à Théo et chez Théo. Et là, imaginez, il arrive à la fin du mois de février. Et quelques semaines plus tard, ouvre la dernière exposition du groupe impressionniste. Et dans cette dernière exposition, Camille Pissarro a fait en sorte, a voulu, qu'on invite un tout jeune peintre qui s'appelle Seurat et qui expose un immense tableau le dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte. Ça veut dire que Vincent arrive au moment où l'histoire de l'impressionnisme, avec les expositions communes en tout cas, est en train de s'achever et où d'autre part commence l'histoire de ce qu'on va appeler le néo-impressionnisme. Donc il découvre la réalité de la couleur et tout va changer. Quand on regarde en particulier les portraits que Vincent peint de lui quand il arrive à Paris, c'est terne, c'est triste, c'est brunâtre, c'est de la terre si j'ose dire. Et quand on voit le dernier, qui est un autoportrait où il présente sa palette et qui va commenter dans une lettre, non pas à Théo, parce que, et pour cause, quand il vit à Paris, il écrit pas à Théo, hein, il lui parle, mais qu'il écrit à sa sœur, à l'une de ses sœurs qui est Wilhelmine, il explique que ça y est, il a enfin trouvé le moyen de travailler, de développer sa personnalité artistique. Donc, si vous voulez bien, même s'il peint des paysans, et toujours en l'occurrence avec un modèle qu'il a emprunté à Millet, qui est le semeur, le paysan, le semeur qu'il aura peint dans les plaines de la Drente ou du Borinage, et ceux qu'il va peindre dans les plaines de la Croix, ils seront le même personnage, mais avec une autre réalité de couleur.
Alors pour continuer aussi sur la question de la personnalité de Vincent Van Gogh et de son rapport avec la famille, on va revenir un petit peu en arrière au moment où tout semble se boucher pour Vincent Van Gogh qui visiblement n'arrive à faire aucune des choses que de ce que le monde, de ce que sa famille attend de lui.
Voilà maintenant que déjà depuis 5 ans peut-être, je ne le sais pas au juste, je suis plus ou moins sans place, errant, ça et là. Vous dites, maintenant, depuis telle et telle époque, tu as baissé, tu t'es éteint, tu n'as rien fait. Cela est-il tout à fait vrai? Il est vrai que j'ai tantôt gagné ma croûte de pain, tantôt tel ami me l'a donné par grâce. J'ai vécu comme j'ai pu, tant bien que mal, comme cela allait. Il est vrai que j'ai perdu la confiance de plusieurs. Il est vrai que mes affaires pécuniaires sont dans un triste état. Il est vrai que l'avenir est pas mal sombre. Il est vrai que j'aurais pu mieux faire. Il est vrai que tout juste pour gagner mon pain, j'ai perdu du temps. Il est vrai que mes études sont elles-mêmes dans un état assez triste et désespérant. Et qu'il me manque plus, infiniment plus que je n'ai. Mais cela s'appelle-t-il baisser? Et cela s'appelle-t-il ne rien faire? Tu diras peut-être, mais pourquoi n'as-tu pas continué comme on aurait voulu que tu eusses continué par le chemin de l'université? Je ne répondrai rien là-dessus que ceci. Cela coûte trop cher. Et puis cet avenir-là n'était pas mieux que celui d'à présent sur le chemin où je suis. Dans le chemin où je suis, je dois continuer. Si je ne fais rien, si je n'étudie pas, si je ne cherche plus, alors je suis perdu. Alors malheur à moi. Maintenant, une des causes pourquoi maintenant je suis hors de place, pourquoi pendant des années j'ai été hors de place, cela est tout bonnement parce que j'ai d'autres idées que ces messieurs qui donnent les places aux sujets qui pensent comme eux. C'est pas une simple question de toilette, comme on me l'a hypocritement reproché. C'est question plus sérieuse que cela, je t'en assure.
On vient d'entendre Jean-Gabriel Nordman qui lisait une lettre de Vincent Van Gogh à son frère, envoyée en juillet 1880. Alors c'est vrai que il faut pas toujours coller la biographie sur l'œuvre, mais tout de même, on ne peut pas ne pas être ému, encore une fois, par cet homme qui dit qu'il est hors de place. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, quand même, de cette trajectoire de cet homme qui, je le redis, était vraiment, ou se sentait en tout cas, en dehors de la société ?
Mais je me demande s'il n'a pas fait lui-même le choix d'être en dehors de la société.
C'est pas ce qu'il semble quand on lit la correspondance. On a l'impression quand même qu'il souffre beaucoup, notamment du fait que ses parents le rejettent d'une certaine manière. Il n'y a que Théo qui est là pour lui.
Mais pas toujours. Hein. Théo, lorsque Vincent vit avec Sienne, le réprouve totalement. Hein. Bon, parce que vous le devinez, le fils d'un pasteur qui vit avec une prostituée, socialement, c'est difficilement tolérable et admissible.
Y compris pour Théo, qui est quand même très, très ouvert finalement, accepte d'aider son frère de toutes
Exactement.
Les manières possibles.
Mais ce qui compte surtout, c'est donc le fait que Vincent, si vous voulez, n'aura rien fait pour ne pas être exclu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que, au bout du compte, regardez, il évoque dans la lettre qu'on vient d'entendre la tenue qui est la sienne. Elle sera rarement d'une élégance exceptionnelle. Sauf lorsque, à Paris, il fera un petit effort. Mais très vite, il va vouloir, avec cette tenue vestimentaire, apparaître comme quelqu'un de très humble et qui, en l'occurrence, n'a pas les moyens. Quand il dit qu'il n'a pas les moyens, là aussi, dans ce domaine, il faut prendre conscience d'une chose. Pendant des mois et des mois, pendant des années, Théo va lui envoyer régulièrement de l'argent. Théo va lui envoyer parfois jusqu'à 100 francs par mois, si ce n'est 150. Plus parfois, quand il sera en Arles, il va lui envoyer des fournitures, comme de la toile vierge encore, comme des peintures. Et c'est dire que c'est loin d'être la misère totale.
On parlera de l'argent justement, en particulier demain. Donc c'est loin d'être la misère totale, c'est vrai, mais en tout cas, dans son cœur à lui, si l'on peut dire, c'est une forme de misère. Est-ce qu'on ne peut pas dire cela quand même ?
Ça tient à une chose, c'est que tout ce dont il dispose, à tous les niveaux, il le dédie à la peinture. Il n'y a pas d'autre priorité que celle-là. Hein, ou à ce qui doit accompagner la peinture. Et donc, quand vous évoquez le fait que Vincent se soit senti exclu. Il se trouve qu'en l'occurrence, la société va porter sur cet homme qui est revêche. Hein. Faut dire qu'il a un caractère qui est pas simple. Hein. Bon, et que à l'évidence, il a tout fait troubler, gêner, agacer, provoquer des colères ici et là. Regardez, quand il est à Nuenen, ce qui va pas simplifier les choses et qui va l'exclure et le tenir à distance aussi. On l'appelle le bonhomme peintre. Bon, très bien. Mais le susdit bonhomme peintre qui va quitter la petite pièce qu'on lui a accordée dans la maison chez ses parents pour aller dans une espèce d'appentis qui est chez le bedeau du curé, déjà passé du clan protestant au clan catholique. Un peu gênant. Mais surtout, Vincent, à l'époque, il manque de modèles. Donc ce sont les paysannes qu'il, vaille que vaille, il rémunère avec quelques sous pour poser. Or, très vite, on va soupçonner Vincent d'avoir abusé de l'une d'entre elles. Et donc, toutes les autorités religieuses du village vont interdire qu'on aille poser pour Vincent. C'est vous dire aussi que l'attitude de Vincent, le caractère de Vincent, l'intransigeance qui est la sienne, n'a rien simplifié. Rien.
Je ne trouve pas jusqu'à présent la vie ici aussi avantageuse que j'eusse pu l'espérer. Seulement, j'ai 3 études de fait, ce qu'à Paris de ces jours-ci, probablement, je n'aurais pas su faire. Il me semble par moments que mon sang veuille bien plus ou moins se remettre à circuler, cela n'ayant pas été le cas dans les derniers temps à Paris. Je n'en pouvais véritablement plus. Ah, il me semble de plus en plus que les gens sont la racine de tout. Et quoique cela demeure éternellement un sentiment mélancolique de ne pas se trouver dans la vraie vie, dans ce sens qu'il vaudrait mieux travailler dans la chair même que dans la couleur ou le plâtre, dans ce sens qu'il vaudrait mieux fabriquer des enfants que de fabriquer des tableaux ou de faire des affaires. Cependant, on se sent vivre quand on y songe. Je n'aurais peur de rien si ce n'était cette sacrée santé. Ne mangeant guère et ne buvant guère, je suis très faible. Mais le sang se refait au lieu de se gâter. Les mœurs, d'ailleurs, sont, il me semble, moins inhumaines et contre nature qu'à Paris. Mais, avec mon tempérament, faire la noce et travailler ne sont plus du tout compatibles et dans les circonstances données, faudra se contenter de faire des tableaux. Ce qui n'est pas le bonheur, et pas la vraie vie, mais que veux-tu ? Même cette vie artistique, que nous savons ne pas être la vraie, me paraît si vivante, et ce serait ingrat de ne pas s'en contenter.
Van Gogh était donc arrivé à Paris le 28 février 1886. Là, il se décrasse un petit peu quand même de son habitude de voir de la peinture très 19e et de peindre aussi de cette manière-là. Deux ans plus tard, il décide donc, vous l'avez dit, d'aller à Arles. C'est ce qu'on entendait dans cette nouvelle lettre à son frère qui date du 21 février 1888. Alors, pourquoi s'arrête-t-il en Arles ? Est-ce qu'il n'avait pas l'idée de descendre jusqu'à Marseille ? Et finalement, que va-t-il se passer, puisqu'il y a cette espèce de moment extraordinaire de jaillissement de la peinture de Van Gogh ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça, Pascal Bonafou ?
Première remarque extraordinaire, quand il arrive en Arles, le jour que vous venez d'indiquer, à la fin de ce mois de février, il a neigé sur la croix. C'est pas arrivé depuis des décennies, des années et des années. Et donc, Vincent a cette première réflexion extraordinaire. Il est au Japon, parce que l'éclat des couleurs, démultiplié par, bien évidemment, cette neige qui est partout, le fascine et qui retrouve là ce qu'il a découvert, donc, quand il est arrivé à Paris, les estampes japonaises, qui vont être, là aussi, comme pour lui comme pour d'autres, un exemple fascinant.
Il y a d'ailleurs des tableaux de Van Gogh qui sont directement issus de ces modèles d'estampes japonaises.
Exactement. Il va les copier et il va, qui plus est, les représenter, tiens, derrière le portrait de sa maîtresse à Paris, hein, Agostina Segatori, qui est la patronne du tambourin, il la peint avec une estampe japonaise. Le père Tanguy, qui est son marchand de couleurs, hein, qui est une petite boutique et qui passe pour être une sorte de Socrate et de mécène d'une certaine manière, ce qui fait pas payer tout le monde toujours, il le représente dans les portraits qu'il peint de lui devant toute une série d'estampes japonaises. Et lorsque, en Arles, après avoir été soigné à l'Hôtel Dieu, après s'être tranché l'oreille, il va se peindre deux de ses autoportraits avec un petit bonnet bleu sur la tête enfoncé et un grand pansement sur l'oreille. Qu'est-ce qu'il y aura sur l'un d'entre eux ? Une estampe japonaise. Donc c'est dire que...
Donc le sud de la France, c'est assez inattendu quand même, a dans son esprit un lien avec le Japon.
Immédiat, clair, net, précis. Hein. Bon, donc il est au Japon. Mais il est en même temps là, peut-être aussi parce que chez le même père Tanguy que je viens d'évoquer, il a peut-être croisé un jour ou l'autre un certain Paul Cézanne. Et que la lumière qu'il a découvert dans les tableaux que Cézanne laisse souvent chez le père Tanguy en dépôt, le fascine.
Ça, on le sait ou on le pense ?
On le suppose, on le suppute, mais on ne peut pas en être certain. Il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de relation d'aucune sorte qui puisse nous l'attester. Mais... c'est très probable. Et qui plus est, si, je dis bien si, Cézanne et Van Gogh ont parlé du midi, vous devinez que Cézanne, qui est ronchon et qui est, tient tout le monde à distance, lui a surtout pas conseillé de venir à Aix-en-Provence. Hein, ni à Marseille, parce que c'est trop près de l'Estac où il descend souvent. Hein. Donc, Arles, c'est peut-être pas plus mal. Et donc, s'il arrive en Arles, c'est avec ce souci de découvrir cette intensité de lumière qu'il a découvert, sans doute, encore une fois, dans la peinture de Cézanne. Mais il va pas l'aborder comme Cézanne l'aborde. Et Vincent va donc, pendant les mois où il va peindre en Arles, vouloir atteindre ce qu'il dira être la haute note jaune. C'est celle des chants. C'est celle, donc, qu'il va... obstinément vouloir trouver avec, entre autres, les tournesols,
voilà,
la série des tournesols.
Hein.
Et donc, il va dire, d'ailleurs, quand il va se trancher l'oreille et pour expliquer le geste terrifiant qu'il a pu faire, il va expliquer à Théo que l'absinthe, le fait de mal se nourrir, le café, l'addition de tout ça et l'état de nervosité dans lequel il était, il le provoquait délibérément pour atteindre cette fameuse et nécessaire haute note jaune.
Et pourquoi le jaune en particulier ?
Alors, à l'évidence, c'est la couleur la plus éclatante qui soit et qui est pour lui la couleur même de la lumière.
Et du bonheur par là même ou pas ?
Sans doute aussi. Parce que la peinture de Vincent, Vincent la conçoit aussi pour apaiser ceux et combler ceux qui n'auront jamais vu de peinture. C'est peut-être une des choses les plus extraordinaires qui soit, justement, que la célébrité de Vincent auprès de gens qui, bon, ignorent Poussin, savent pas qui est Delacroix, etc., etc., mais qui sont fascinés par Vincent Van Gogh, qui avait l'ambition extraordinaire de peut-être un jour être accroché dans une cuisine. Bon. À croire qu'aujourd'hui, certains musées sont des cuisines, mais c'est pas
vous
grave.
Vous pensez qu'il y a quelque chose, du coup, une envie d'être populaire et de populariser aussi la peinture grâce à la couleur qui a quelque chose de séduisant, en effet, beaucoup plus que le dessin. En général, on pense à ça quand on pense à Matisse aussi. Est-ce qu'il avait cette conscience-là ?
Cette conscience telle que vous l'exprimez, sans doute pas. Mais la volonté, en tout cas, d'être accessible, d'être vu, et encore une fois, d'être peut-être admiré, et en tout cas d'apaiser les soucis des uns des autres par la couleur et par l'express d'intensité qu'ils mettent en évidence avec ces tableaux, sans l'ombre d'un doute, oui. Hein. Vincent, il faut vraiment insister là-dessus. Au même titre qu'il a commencé à dessiner véritablement avec les mineurs, va vouloir plus tard peindre peut-être bien pour ces mêmes mineurs, hein, pour que ces mineurs-là puissent justement trouver cet apaisement qu'il n'aura pas été capable de leur apporter avec son attitude d'évangélisateur laïque.
Et pour apporter la lumière à travers le jaune des tournesols,
exactement.
Parce que dans les cuisines parfois
voilà,
crasseuses...
Si vous voulez, d'une certaine manière, la lumière qu'il apporte est celle qu'il aurait voulu apporter avec la lumière de Dieu grâce à la Bible et aux évangiles, et faute de pouvoir apporter cette lumière-là, il leur apporte la lumière de sa peinture.
Pourquoi les tournesols sont-ils considérés aujourd'hui comme le summum de son art ? Qu'est-ce que ces natures mortes-là en particulier ont de si spécial ?
Ben, ils donnent à ces fleurs, à ces tournesols, une place qu'ils n'ont jamais eue dans l'histoire de la peinture, entre autres. Hein. Et donc le regard que l'on porte est aussi par rapport à cette dimension, j'allais dire, d'apparition. Hein. Et parce que, d'une certaine manière, elles ont été totalement dédaignées, oubliées, reléguées, etc. Bon. Mais, d'une certaine manière, il agit avec ses tournesols comme il agit, quand il est en Arles, avec les portraits des inconnus hein, qu'il va peindre. La famille Roulin, les Arlésiennes, etc. C'est que Vincent va toujours vouloir donner à ce qu'on n'a pas vu l'honneur d'être admiré. Imaginez, quand il peint déjà, quand il est encore aux Pays-Bas, une paire de Grolles, avachies, usées, avec presque l'empeigne qui bave, etc., etc. Comment voulez-vous qu'il n'ait pas l'ambition justement de redonner aux humbles choses, comme aux humbles personnages qu'il croise, qu'il rencontre, la même intensité pour qu'il soit enfin et reconnu et admiré.
Alors il y a chez Van Gogh une assez grande solitude qu'il va essayer de contrer en imaginant qu'il pourrait réunir justement en Arles une sorte de petit phalanstère de peintres. C'est une sorte de rêve pour ce reclus, alors volontaire, hein, vous l'expliquez très bien Pascal Bonafou, mais la seule personne qu'il va réussir à faire venir c'est Gauguin.
Oui, et Gauguin va venir un peu à reculons si j'ose dire, mais bon. Gauguin a des dettes, et une fois de plus, c'est Théo qui a imposé un peu cette solution, parce qu'en effet, comme le dit Vincent, vivre à deux dans la même maison, ça coûtera moins cher, etc. Et que qui plus est, dit-il, tu pourrais peut-être récupérer des tableaux de Gauguin en contrepartie de ces jours qu'il va passer dans la maison. Et donc, il va y avoir entre eux, d'abord, une chose qu'il faut rappeler. Ils se sont rencontrés, bien sûr, à Paris. Et Vincent, d'emblée à Paris, a été reconnu et on a soupçonné l'importance de son travail chez les peintres les plus différents qui soient. Gauguin, bien évidemment, mais imaginez. Toulouse-Lautrec a peint à Paris le portrait de Vincent. Toulouse-Lautrec, c'est pas n'importe qui. Hein. Et donc, ça veut dire que Vincent est déjà regardé par les uns et les autres comme quelqu'un d'important, quelqu'un qui compte. Et Vincent va en effet vouloir faire venir les uns et les autres dans cet atelier du midi qu'il rêve de créer dans la Maison Jaune, qui a, en plus, à ses yeux, une vertu bien particulière. Pendant toute sa vie, jusqu'au moment où il emménage dans la Maison Jaune, il n'a jamais été chez lui. Il a été logé par les uns, par les autres, par ses parents, par etc.
Donc c'est sa première maison.
C'est sa première maison, son premier domicile fixe. Hein.
Bon. Alors pendant 2 mois, Gauguin vient, aidé en cela par Théo, et puis ça se passe évidemment assez mal. Il est un petit peu question d'alcool, il est question aussi que l'un a tendance à expliquer à l'autre comment il doit dessiner. En l'occurrence, Gauguin explique à Van Gogh, qui est plus jeune, qu'il ne devrait pas faire comme ça, mais plutôt comme ça. Donc ça se termine très mal par la fameuse oreille coupée. Je vous propose d'entendre à ce sujet ce que en a dit Paul Gauguin.
Le soir arrivé, j'avais ébauché mon dîner et j'éprouvais le besoin d'aller seul prendre l'air aux senteurs des lauriers en fleurs. J'avais déjà traversé presque entièrement la place Victor Hugo lorsque j'entendis derrière moi un petit pas bien connu, rapide et saccadé. Je me retournai au moment même où Vincent se précipitait sur moi, un rasoir ouvert à la main. Mon regard dut à ce moment être bien puissant car il s'arrêta et baissant la tête, il reprit en courant le chemin de la maison. Très agité, je ne pus m'endormir que vers 3 heures du matin et je me réveillai assez tard, vers 7h30. En arrivant sur la place, je vis rassembler une grande foule. Près de notre maison, des gendarmes et un petit monsieur au chapeau melon qui était le commissaire de police. Voici ce qui s'était passé. Van Gogh rentra à la maison et immédiatement se coupa l'oreille juste au ras de la tête. Il dut mettre un certain temps à arrêter la force de l'hémorragie, car le lendemain, de nombreuses serviettes mouillées s'étalaient sur les dalles des deux pièces du bas. Le sang avait sali les deux pièces et le petit escalier qui montait à notre chambre à coucher. Lorsqu'il fut en état de sortir, la tête enveloppée d'un béret basque tout à fait enfoncé, il alla tout droit dans une maison où, à défaut de payse, on trouve une connaissance et donna au factionnaire son oreille bien nettoyée et enfermée dans une enveloppe. « Voici, dit-il, en souvenir de moi. »
Alors c'est comme ça que s'ouvre l'histoire assez connue de Van Gogh hospitalisé à l'hospice Saint-Rémy pendant 1 an avec les fous. On en parlera en particulier mercredi, mais puisqu'on arrive à la fin de cette émission, Pascal Bonafoux, je voudrais qu'on dise un mot des 70 derniers jours de Van Gogh. Il quitte Arles, il va d'abord à Paris, puis à Auvers-sur-Oise, où il va peindre énormément, quasiment un tableau par jour, jusqu'à sa mort. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Une chose essentielle. Quand il quitte Saint-Rémy-de-Provence pour remonter dans le nord, d'abord il a la certitude d'être épaulé, soutenu par un toubib que Camille Pissarro a recommandé à Théo, hein, le docteur Gachet. Et il sait qu'il ira donc à Auvers-sur-Oise. Donc il reste très peu de temps à Paris. Mais, quand il est à Paris, il découvre qu'il a un neveu qu'on vient, tradition familiale, d'appeler Vincent. Théo est dans une passe difficile au sein de la maison Goupy et compagnie. Il vient de se marier, il a 7 enfants. Il y a peut-être un Vincent de trop dans la famille. Il va donc arriver à Auvers-sur-Oise, il va faire le choix de vivre à la pension Ravoux, on va lui accorder une petite mansarde. Hein, bon. Et puis, en effet, avec un sentiment presque qu'on pourrait qualifier d'urgence, il va peindre et dessiner obstinément, jour après jour. Presque, donc, comme vous l'avez dit, une toile par jour. C'était fou.
Jusqu'au suicide final. Est-ce d'ailleurs un suicide? Est-ce un accident?
Alors, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est bel et bien un suicide. Il n'y a aucun doute à avoir. Et donc, le dernier tableau qu'il peint, ce sont des racines sur un talus, à quelques pas, donc, de la pension Ravoux, à la sortie d'Auvers-sur-Oise. Et ce tableau, de manière extraordinaire, il est presque le souvenir d'autres racines qu'il a peint des années plus tôt lorsqu'il était, donc, aux Pays-Bas, et qui étaient, disait-il à l'époque, le signe, justement, de l'enracinement de la vie, curieusement, son dernier tableau, ce sont ses racines au moment où il se tire une balle dans la poitrine.
Merci beaucoup Pascal Bonafou pour compléter cette émission. Et je sais qu'il y a beaucoup à dire sur la biographie de Van Gogh. On peut se reporter à votre livre Van Gogh, Le soleil en face, paru chez Gallimard dans la collection Découverte. Tout de suite la chronique.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Une chronique proposée aujourd'hui par vous, Baptiste Liger, journaliste et rédacteur en chef du magazine Lire, le magazine littéraire. Bonjour à vous.
Bonjour Mathieu.
Une chronique rentrée littéraire, évidemment.
Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est la période. D'ailleurs, c'est une constante des rentrées littéraires. On résume très souvent les ouvrages à une affaire de sujet et d'auteur, bon, ce qui est évidemment légitime, avec une prime à la notoriété parfois un peu regrettable. Mais on a tendance quand même à mettre de côté les endroits d'où viennent ces œuvres, les cultures qu'elles représentent, et peut-être les écoles, les clans littéraires qu'elles peuvent illustrer. Ainsi, au lieu de me pencher sur un écrivain vedette, disons Emmanuel Carrère ou Éric Reinhart, ou bien encore croiser le contenu de certains romans en abordant de près ou de loin le même thème, penchons-nous plutôt sur deux romans qui ont plus de compter parmi les plus intéressants du moment, qui ont en commun d'être signés par des femmes tout d'abord, mais surtout de venir du même coin du monde, à savoir le Québec, qui est sans doute l'une des régions francophones les plus passionnantes, où il y a une indéniable créativité.
Et en même temps, même si on a tendance à trouver que la littérature québécoise a été un petit peu oubliée, il y a un certain nombre d'écrivaines québécoises qui ont eu un beau succès dans notre pays.
Ah bah oui, il n'y a qu'à regarder le palmarès des grands prix littéraires d'automne. L'excellente Marie-Claire Blais, obtenue de Médicis dans les années 60, on dit même qu'elle serait candidate, même s'il n'y a pas véritablement de candidat pour le Nobel de littérature. Anne Hébert et Gabrielle Roy ont reçu le Fémina. Et comment oublier le Goncourt, je crois que c'était en 1979, attribué à Pélagie la charrette d'Antonine Maillet. Bon, j'avoue que le titre ne fait pas forcément envie, en tout cas en ce qui me concerne, mais voilà, je sais que c'est un prix qui a compté. Alors, outre la charismatique polémiste de Denise Bombardier, dont on a beaucoup reparlé à l'occasion de l'affaire Matzneff, d'autres noms ont été remarqués ces 20 dernières années, de Kim Thuy à Nelly Arcan, l'auteur de Putain qui nous a quittés il y a quelques temps, en passant par Perrine Leblanc, Audrey Villelmy, Anne Robillard, Akichi Mazaki ou bien encore la reine du polar, André Michaud. Alors bon, si le Québec peut se targuer d'un académicien, à savoir Daniel Laferrière, force est de constater que la vitalité littéraire de Montréal, elle s'avère vraiment très très féminine, à l'image donc de deux des titres, à mon avis, littérairement majeurs de cette rentrée littéraire 2020.
Alors justement, le premier, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous nous conseillez?
Un petit pari, Mathieu. À quand une compagnie des œuvres consacrée, par exemple, au poème d'Emily Dickinson?
Très bientôt, on y réfléchit depuis longtemps.
On parlait des choses simples qui sont transcendées, comme par exemple des végétaux, ce que faisait Van Gogh merveilleusement. Emily Dickinson l'a appliqué dans les mots. En tous les cas, Dominique Fortier, puisque c'est d'elle dont il s'agit, aurait toute sa place dans l'émission avec Les villes de papier, publiées aux éditions Grasset. Quelque part entre le roman et l'essai, avec quelques incursions autobiographiques, elle reconstitue de manière singulière le parcours de la fameuse poétesse américaine qui a longtemps vécu recluse dans sa chambre, ne supportant pas vraiment l'extérieur, même si elle a un petit peu voyagé. Et par petites touches sensorielles et dans une langue très élégante, Dominique Fortier restitue parfaitement tout l'imaginaire, tous les tourments d'Emily Dickinson. C'est vraiment une très belle réussite.
Et très rapidement, un dernier titre.
C'est mon coup de cœur, tout simplement, de la rentrée. C'est l'opposé absolu, à savoir La trajectoire des confettis, le premier roman époustouflant de Marie-Ève Thouault aux éditions du Sous-Sol. Je vais faire simple, c'est une grande fresque familiale éclatée dans le temps, sur la sexualité, dans tout, mais vraiment tout ce qu'elle implique, avec quelques frères assez étranges, un barman abstinent, un libertin, un monogame, mais qui change sans cesse de compagne. Ajoutez à ça une petite fille obsédée par l'ovario-hystérectomie, un garçon qui a épousé sa tante, un pasteur étrange, un gourou qui ne l'est pas moins. Bref, il y a de la folie, il y a de l'ambition. La trajectoire des confettis, tabernacle, c'est formidable.
Merci Baptiste Ligier. La Compagnie des œuvres, Laurence Millet, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Didier Pinault, Romain Billet, Jean-Frédérix. Demain, avec Wouter van der Ven, on parlera de Van Gogh et de son œuvre en or.